Et voilà, comme je vous disais, c'est le succès, c'est ça? C'est le bonheur d'avoir autant de lecteurs. Faut quand même le dire à notre public. Robin, bien sûr, vous avez bien compris que je me suis réservé ce café littéraire. Personne n'aurait pu me le prendre. Vous êtes la marraine du festival et j'en profite pour vous dire que lorsque vous êtes venu pour la première fois en 2003, c'était courageux parce qu'on était un tout petit festival qui débutait et vous avez eu l'extrême gentillesse de nous faire confiance alors qu'on comptait les présences devant les livres, dans les conférences. C'était sur 4 jours quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, on est parti dans d'autres échelles. Et puis pourtant, vous êtes toujours aussi chaleureuse avec nous. Le festival est aussi facile à faire fonctionner parce que le bonheur, il est réciproque. Et il paraît qu'il y a comme un air de magie sur Épinal. La ville ne pourrait plus se passer de son festival. Et je crois que le festival ne pourrait pas se passer non plus de cette ville où il se passe des choses. Alors, c'était tout à fait évident quand on a cherché un parrain ou une marraine. On a d'abord pensé français, ce qui était logique. Et puis, on a eu des noms, et des noms qui seront peut-être des parrains et des marraines pour les années à venir. Et puis, on s'est dit, surtout pour les 10 ans, il nous faut quelqu'un. Et on s'est dit, mais il faut quelqu'un de talentueux. Il faut quelqu'un qui ait un grand succès public. Mais il faut aussi quelqu'un qui soit attaché au festival. Et puis, il faut quelqu'un qui soit chaleureux et qu'on aime. Et on s'est dit, mais c'est évident, c'est Robin Hobb. Merci d'être là et merci d'avoir accepté, Robin Hobb. Maintenant, on va passer au livre parce que vous êtes surtout venu pour ça. Et on va parler d'abord du passé. Non pas du premier livre, mais du premier succès. La Citadelle des Ombres, cette série de l'Assassin Royal qui a fait de Robin Hobb un des auteurs majeurs de la fantasy mondiale. Alors on va demander à Sylvain Demierre, notre lecteur, que j'en profite pour remercier, de nous plonger dans le monde de Robin Hobb.
Connaissez-vous une ville que vous avez préférée à Castelserre ? Humbre se redressa prudemment, ses mains pâles pleines de minuscules graines noires. Pose-moi franchement la question au lieu de tourner autour du pot. Je lui exposai donc la proposition de jeu répu, et aussi ma brutale prise de conscience que les cartes n'étaient pas que de jolis dessins en couleur, qu'elles représentaient des lieux et des possibilités réelles, que je pouvais m'en aller ailleurs, devenir quelqu'un d'autre, me faire scribe ou... Non ! Le ton d'Impre était posé mais tranchant. Où que tu ailles, tu resteras le bâtard de chevalerie. Je répu est plus perspicace que je ne le croyais, mais il ne comprend quand même pas. Il ne voit qu'une partie du tableau. Il a bien vu qu'ici, à la cour, tu seras toujours un bâtard, une espèce de paria. Mais ce qu'il ne perçoit pas, c'est qu'ici, bénéficiant des bontés de Subtil, poursuivant ton éducation sous ses yeux, tu n'es pas une menace pour le roi. Effectivement, tu es sous l'ombre de chevalerie, ici. Effectivement, elle te protège. Mais en t'en allant de Castelserre, loin de ne plus avoir besoin de cette protection, tu deviendrais un danger pour le roi Subtil et un risque encore plus grand pour ses héritiers après sa mort. Ne va pas t'imaginer menant l'existence simple et sans entrave de scribe itinérant. Pour toi, ce serait plutôt la gorge tranchée dans ton lit ou une flèche dans le cœur au détour d'une route. Un frisson glacé me parcourut. Mais pourquoi ? Demandai-je à voix basse. Humbre soupira. Il versa les graines dans un plat et s'épousta légèrement les mains pour en faire tomber les dernières. Parce que tu es un bâtard royal et l'otage de ta propre lignée. Pour le moment, comme je te le disais, tu ne représentes aucune menace pour Subtil. Tu es trop jeune et par ailleurs, il a fait en sorte de toujours pouvoir garder un œil sur toi. Mais il réfléchit à long terme et tu devrais en faire autant. Nous vivons une époque troublée. Les raids des Outriliens sont de plus en plus audacieux. Les gens de la côte commencent à grommeler en disant qu'il nous faut davantage de navires de patrouille, voire, selon certains, des navires de guerre pour exercer des représailles. Mais les duchés de l'intérieur ne veulent pas mettre la main à la bourse, surtout pour des bateaux de combat qui risqueraient de nous précipiter dans une guerre générale. Ils accusent le roi de ne s'intéresser qu'à la côte, sans se préoccuper de leurs agricultures. Les montagnards accordent de plus en plus chichement le droit d'emprunter leur col. Les taxes sur les marchandises s'envolent tous les mois un peu plus. Du coup, les négociants maugréent et murmurent entre eux. Au sud, à bord du sable et plus loin, c'est la sécheresse et les temps sont durs. Là-bas, tout le monde se plaint ouvertement, comme si le roi et Vérité étaient responsables de leur situation. Tant qu'il s'agit de boire une chope, Vérité s'en tire très bien. Mais ce n'est pas le soldat ni le diplomate qui était chevalerie. Il préfère chasser le daim d'hiver ou écouter un ménestrel au coin du feu, qu'arpenter les routes au cœur des frimas par un temps glacial, rien que pour maintenir le contact avec les autres duchés. Tôt ou tard, si la situation ne s'améliore pas, les gens vont commencer à se dire « Après tout, un bâtard, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ces chevaleries qui auraient dû monter sur le trône, ils mettraient bien vite de l'ordre dans tout ça. Il était peut-être un peu strict sur le protocole, mais au moins, avec lui, le travail était fait et il ne laissait pas les étrangers nous marcher sur les pieds. »
Voilà, en quelques pages, au début du cycle, l'univers est posé. Vous avez un monde de fantaisie qui est puissant visiblement, mais dont on sent que les premiers craquements se font sentir, un ennemi extérieur, des conflits sous-jacents à l'intérieur et une menace interne dans la famille royale, avec un personnage qui va devenir un des personnages centraux, qui peut être à la fois une menace qu'il faut éliminer ou un serviteur du roi. Quand vous avez imaginé ce personnage de bâtard, on sait qu'en littérature, on est entre l'enfant trouvé ou le bâtard, c'est assez classique. Pourquoi ce personnage, vous en avez fait un petit peu le cœur de votre cycle romanesque? En quoi c'était une possibilité pour vous de faire plein de rebondissements, d'aventures? En quoi c'était aussi un personnage passionnant qui pouvait tirer toute l'intrigue? Dès le début, vous y avez pensé à ce personnage?
Fitz was a character who was with me for a long time before I began to write him. I had deliberately chosen to look at some of the clichés in fantasy and try to make them fresh again. Clichés occur because at the heart of them there is something that speaks to all of us. So the person who should be treated well but is an outsider is a character that speaks to all of us. And I wanted to write him in a way that made him the main character of the book, even though he would have been an outsider to the inner circles of power.
Fitz est un personnage qui est resté avec moi pendant longtemps, même avant que je commence à l'écrire. J'ai délibérément choisi d'examiner les clichés qu'on trouve en fantasy et de faire en sorte de leur donner un petit coup de rajeunissement. Parce que au cœur des clichés, il y a quelque chose qui nous parle à tous. Par exemple, cette personne que l'on devrait traiter correctement, mais qui est en fait finalement un étranger ou une sorte d'étranger, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Et c'est ce qui m'a intéressé chez lui et ce qui m'a donné envie d'en faire un personnage principal, qu'il soit justement un étranger au cercle interne du pouvoir.
Il y a un autre élément, un autre thème important dans ce cycle de l'assassin royal, c'est la magie. Alors on dira dans fantasy, la magie, c'est quand même assez courant, c'est pas dans tous les livres de fantasy, mais c'est quand même une bonne partie de la fantasy. Et vous avez su éviter dès le départ une magie qui soit une magie facile, une magie qui ne coûte rien. Votre magie, elle est puissante, elle est diverse. C'est un moyen de pouvoir, mais ça abîme, ça fait souffrir et ça dégrade. Alors même si elle est puissante, ceux qui l'ont dans vos romans hésitent à l'utiliser. Pourquoi vous avez utilisé cette thématique particulière de la magie, assez différente de ce qu'on trouve d'habitude, en tout cas lorsque vous avez écrit la série dans les romans de fantasy?
Oh. I think that was actually the first seed of the Farseer trilogy was a question that I wondered, which was, what if magic was an addiction, and what if the addiction was destructive to the person who had it? So it was one of the very first pieces that I wanted to build a story around. I don't exactly remember what triggered that question. I do remember thinking that it was important and writing it down and putting it in my desk drawer so that I could remember it and think about it. I wanted magic to come with a cost. I have read many books where the destined child, the chosen hero, apparently achieves his task with almost no effort. He is the chosen one, and so he is strong and handsome and brave and has skills with weapons and is clever. But I think that we all actually have to work very hard to gain the level of skill that enables us to do something well. So I wanted my character to have to work for those skills too.
Je pense en fait que cette question a été le germe original qui m'a conduit à la série de l'Assassin Royal. C'est une question que je m'étais posée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si la magie était en fait provoquée une accoutumance, comme une drogue, et si donc sa pratique était destructive pour la personne qui avait cette addiction. Et ce fut en tout cas les premières pièces autour desquelles j'ai eu envie de bâtir une histoire. Je ne me rappelle pas exactement comment cette question m'est venue, mais je me rappelle que je me suis dit que c'était important, que je l'ai écrite sur un bout de papier, je l'ai mise dans le tiroir dans mon bureau pour m'en souvenir. Je voulais également que la magie et son exercice aient un prix. J'avais lu beaucoup de livres où la magie n'en a pas, que l'enfant qui a un destin, que le héros qui a été choisi, l'élu, n'a quasiment pas d'effort à fournir pour accomplir son destin. Il est fort, il est séduisant, il est courageux, il est intelligent, il est doué avec les armes. Et donc son destin ne lui demande pas vraiment d'effort ni de sacrifice, alors que je pense que nous tous, nous avons beaucoup de travail à fournir pour atteindre le niveau, la compétence qui nous permet de faire des choses bien. Et je voulais que ce personnage ait ce travail à fournir lui aussi.
Il y a aussi dans votre œuvre une absence totale de simplisme dans la psychologie des personnages. Vous ne fonctionnez pas sur, même si bien évidemment ces grandes tendances existent, un mal simpliste contre un bien simpliste. Vous avez toujours choisi d'intégrer dans vos romans de la demi-teinte, du gris. C'est de la richesse pour la littérature, ou est-ce que c'est parce que c'est aussi une façon de regarder la vie qui serait la vôtre, Robin Hobb?
I think that when that fantasy and science fiction is often accused of having cardboard characters, puppet characters that are moved through a story being good for no apparent reason or being evil because they don't like good. So I wanted to avoid that. I wanted to build more complex characters. Every person I know, no matter how good, has moments of evil. And I do not know any person who is so wicked as to have never done something that was good. So I wanted my characters to struggle, as we do, to try to be good people, and to sometimes believe that they had to do things that were awful to attain the right end, because I think that is something that we see in our society too.
Je pense que fantasy et science-fiction sont souvent la critique qu'on leur a souvent fait, c'est qu'on les a accusés d'avoir des personnages bidimensionnels, des personnages en carton, un peu des marionnettes que l'on pousse et que l'on guide à travers une histoire. qui sont bons sans vraiment d'avoir, sans qu'il n'y ait vraiment de raison apparente derrière ça, ou qui sont maléfiques simplement parce qu'ils n'aiment pas le bien. J'avais envie d'éviter ça et d'avoir des personnages plus complexes. Parce que je pense que chaque personne, quelle que soit, aussi bonne qu'elle soit, aussi positive qu'elle soit, a toujours à un moment des moments plus négatifs, plus mauvais. Et personne n'est maléfique au point de n'avoir jamais rien fait de bien dans sa vie. Je voulais des personnages qui luttent comme nous tous pour faire ce qui est bien. Et parce que je pense aussi qu'ils jouaient des personnages aussi qui croyaient parfois devoir faire des choses qui étaient terribles pour atteindre une fin qui était juste. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans notre société aussi.
On continuera à parler pendant des heures de votre première série, mais il faut s'éloigner parce que voilà, on ne peut pas vivre sur l'enfance d'un écrivain, même si c'est déjà une sacrée maturité que ce cycle de l'Assassin Royal. Mais un écrivain, ça poursuit une carrière. Alors, on va la poursuivre avec vous, Les Aventuriers de la Mer. Un extrait, si vous voulez bien, Sylvain Demierre.
Oh, mon navire, on ne peut pas nous séparer après toutes ces années, alors que tu es si près de t'éveiller. Personne n'a le droit de nous faire ça. Elle murmurait, sachant l'inutilité de parler tout haut tant le bateau et elle étaient intimement liés. Elle aurait pu jurer sentir en réponse un frémissement de la vivacia. Ce lien qui nous unit était lui aussi voulu par mon père. C'est pourquoi il m'a fait embarquer alors que j'étais encore toute jeune, afin que nous parvenions à l'âge adulte en nous connaissant déjà. Il eut un nouveau frémissement des membrures du navire, si faible qu'un autre ne l'aurait pas perçu. Mais Althea connaissait trop bien la vivacia pour s'y laisser prendre. Elle ferma les yeux et livra à son bateau ses angoisses, sa colère et ses espoirs. Et, en retour, elle éprouva la faible agitation de l'esprit encore inconscient de la vivacia. Dans les années à venir, une fois que la vivacia se serait éveillée, c'est à elle que le navire préférerait s'adresser. Ce serait à sa main sur la barre que le bateau réagirait le plus vite. Althea savait que, pour elle, il courrait avec plaisir devant le vent, qu'il combattrait les mers adverses de tout son cœur. Ensemble, ils rallieraient des ports de commerce et rapporteraient des cargaisons avec lesquelles aucune marchandise de Terryville ne saurait rivaliser, des merveilles qui dépasseraient même celles des habitants du désert des pluies. Et, quand elle mourrait, ce serait son fils ou sa fille qui monterait à la barre, et non un des rejetons de Kyle. Elle s'en fit la promesse, tant à elle-même qu'au navire. Elle essuya ses yeux pleins de larmes, puis ramassa la soie tombée à terre.
Un autre univers, mais là aussi la magie est présente. Et cette fois-ci, ce sont les vaisseaux eux-mêmes, les bateaux, qui sont magiques. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert votre série d'Aventuriers de la Mer, essayez de nous brosser en quelques mots, Robin Hobb, un peu l'univers et en quoi vous avez voulu sortir tout en y étant de votre premier univers.
In the original Farseer trilogy, there is a city that is mentioned. It's Bingtown to the south. And it's known as a place where if a man can imagine a thing, he can buy it there. So that very much appealed to me as a setting for a story. And I knew that that the events that had happened in the Farseer trilogy would have far-reaching effects as trade opens up again because a war is ending. So I thought that this would be a good place to look for the next important story that would set the stage for more world-changing events. I like Bingtown. It's essentially a nation that was founded by exiles and a rather, for the most part, it's a rather inhospitable place. It doesn't have a lot of a lot going for it, except it is an excellent harbor. It's a trading town, and that they have a source of amazing trade goods that nobody else in the world has access to. So I put those things in place, and the story began to move on its own.
Dans la série donc dans la série originale de l'Assassin Royal, dans les 6 premiers volumes, à l'époque, donc, on entend la mention d'une ville qui s'appelle Terrilville et dont la rumeur veut, ou en tout cas, elle est connue pour être une ville où on l'on dit, si quelqu'un peut imaginer une chose, alors cette chose peut être achetée là-bas, à Terrilville. Et c'est une idée qui m'a beaucoup séduite pour construire le décor pour une histoire. Je savais que les événements qui se déroulent dans les 6 premiers volumes de l'Assassin Royal auraient des grandes répercussions à travers le monde. Par exemple, une réouverture et une réalimentation du commerce, puisqu'une guerre se termine. Et je me disais que cet endroit serait un bon endroit pour essayer de chercher les germes d'une autre histoire qui aurait des événements qui se répercuteraient, qui auraient une importance pour le monde entier. J'aime beaucoup Terrilville. C'est un endroit qui a été fondé par des exilés. Dans l'ensemble, c'est une ville qui se situe dans une région plutôt inhospitalière. C'est un port, mais surtout c'est un port de commerce très développé et excellent. Notamment parce que à Terrilville, il y a une source de marchandises que personne d'autre dans le monde n'a et à qui personne d'autre n'a accès, et ça semblait une bonne base. Et donc c'est ce décor que j'ai mis en place, et puis j'ai ensuite laissé l'histoire se développer.
Vous êtes intéressé par la mer, les marins, c'est peut-être pas par hasard, Robin Hood. Sans rentrer dans les secrets, qu'est-ce qui vous passionne dans la mer et pourquoi ça vous intéresse autant? Et pourquoi, je l'ai lu dans un de vos livres récents, les préjugés sur les gens de mer, ça vous énerve?
I think I've always lived near the ocean from the time I was a small child. The exception would be the years I spent in the interior of Alaska. The man I married is a third or fourth generation maritime. His family has always sailed. He grew up on a boat. When our sons got old enough, they followed him to sea. So for me, there is a fascination with it, and also a very good resource there, in that our house is now filled with objects and old logbooks and charts and things that are of his family for the past generations. Sailors do have a bad reputation as troublemakers, as drunkards, as brawlers, as people that maybe you should put them on a ship and get them out of town. And some of it is justified, I will admit. But often, as in many of the harsher trades, the skills and intelligence that are needed to survive as a sailor are sometimes overlooked. And so I wanted to bring those contrasts together too in the stories of the live ship traders.
Je crois que j'ai toujours vécu près de l'océan depuis ma petite enfance, avec l'exception de la période où j'ai vécu à l'intérieur de l'Alaska. L'homme que j'ai épousé venait d'une famille de marins, ou qui avait un rapport avec la mer, peut-être 3e ou 4e génération. Sa famille a toujours navigué, il a grandi sur des navires, et nos fils, quand ils ont eu l'âge, l'ont suivi en mer. Donc c'est quelque chose qui me fascine, et puis en plus, évidemment, c'est une source d'informations intarissable. Notre maison est remplie d'objets marins, de vieux journaux de bord, de vieilles cartes, des trésors qui sont dans sa famille depuis bien des générations. C'est vrai que les marins ont une mauvaise réputation en général. Ce sont, on les considère comme des ivrognes, des bagarreurs, et que ce sont des gens qu'il faut vite mettre sur leur navire et qu'ils débarrassent le village. J'admettrais que cette réputation peut éventuellement être en partie justifiée, mais je pense qu'on voit trop souvent ces traits un peu rudes, et que on ignore trop souvent les immenses compétences et toute l'intelligence que ces gens ont là ont également. Et ce sont des contrastes que j'avais envie d'aborder et de montrer à travers la série des Aventuriers de la Mer.
Ça m'a touché, ça m'a frappé, mais un aveu, mais on est entre nous, Robino, personne ne nous écoute. Mon grand-père était marin de commerce. Voilà pourquoi ça m'a touché de le lire chez vous, ces préjugés, comme sur tout groupe humain, finalement. Reprenons par contre autre chose, on va prendre une petite lecture. Mais je voulais rappeler qu'avant d'être Robino, vous vous appeliez Megan Lindholm. Des fois, vous vous appelez encore Megan Lindholm. C'est la chance des auteurs de pouvoir changer de nom, de prénom, sans que personne d'ailleurs ne le leur conteste. Et ce qui est frappant, c'est que vos romans ont toujours eu un accueil critique favorable, ont eu un lectorat fidèle, mais que entre les premiers romans de Megan Lindholm et la signature de Robin Hobb, il y a eu un bon qualitatif, non pas dans la qualité des textes. Je crois que Megan Lindholm et Robin Hobb, dans un genre très différent, sont deux grands auteurs, mais en tout cas dans l'accès à un très vaste public. Comment vous interprétez ce fait? Comment vous pensez, comment vous voyez plus exactement cet aspect un peu étrange? Est-ce que c'est dû, par exemple, au fait que votre signature Megan Lindholm est plutôt une signature pour des romans de fantasy urbaine qui sont peut-être moins grand public que la fantasy que vous écrivez majoritairement aujourd'hui?
I think I was probably more surprised than anyone when the first Farseer book was so well received. I can speculate a dozen reasons why. That I had a Michael Whalen cover that was absolutely gorgeous. The publishers made a large effort to introduce the book at the World Fantasy Convention. But there's no really clear reason in my mind why this book suddenly worked when the previous books had struggled. I think it's simply the luck of a writer that the dice roll and somehow suddenly they come up right for you. It's why I always tell young writers or people who are endeavoring to be published to persevere and to keep writing, because it being a writer is one of those strange careers where you almost have to have the permission of the audience to be a success. It's not something that you can achieve on your own. It is something that is given to you for reasons that are very hard to grasp.
Je pense que j'ai probablement été plus surprise que tout le monde quand le premier volume de l'Assassin Royal a été si bien reçu. Je pourrais imaginer une douzaine de raisons pour l'expliquer. Je ne sais pas. J'avais une couverture de Michael Whalen qui était absolument merveilleuse. L'éditeur a fait beaucoup d'efforts pour introduire le livre à un large public à la Convention mondiale de fantasy. Mais je ne vois pas vraiment de raison claire pourquoi ce livre-là a fonctionné alors que les précédents avaient éprouvé un peu plus de difficultés pour trouver leur public. Je pense que c'est surtout la chance de l'écrivain. Vous lancez les dés et puis, des fois, soudain, le résultat est en votre faveur. C'est ce que je dis beaucoup à des jeunes auteurs ou à des gens qui s'efforcent d'être publiés, c'est de persévérer, de continuer à écrire. Je trouve que la carrière d'écrivain est étrange. C'est fait partie de ces carrières où vous avez presque besoin d'avoir la permission du public pour rencontrer le succès. C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par soi-même. Et je vois vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à saisir Quelles sont les raisons derrière ça?
Justement, on va quand même, même si on va surtout parler de Robin Hobb ce soir, un petit extrait de Megan Lindholm. Vous verrez, c'est de la fantaisie urbaine, c'est très différent, mais la qualité, la passion de la littérature, on la trouve aussi dans Le Dernier Magicien. Je rappelle quand même que c'est un des prix Imaginal, ce qui est aussi un gage de qualité.
À l'intérieur, il avait trouvé des vêtements de nourrisson, un porte-bébé, une paire de bottes de chasse usées, trop petites pour lui, et la couverture, pliée avec soin. Elle était d'un bleu profond, en tissu épais et laineux, usé en deux endroits seulement. Mais c'était un cadeau. Tous les cadeaux ne sont pas censés apporter de la joie à leur destinataire. À ce moment-là, il avait senti que la couverture lui avait été envoyée, mais pas pour son lit. Même une épaisseur de trois draps laissait filtrer la lumière des bougies qu'il utilisait pour s'éclairer. La couverture, elle, était hermétique. Elle enfermait et protégeait l'obscurité et la lumière qu'il avait faite sienne et les mettait à l'abri de la grisaille citadine qui régnait au dehors. Lorsqu'il l'avait tendue, elle avait bloqué et enfermé jusqu'au moindre ray, jusqu'au plus petit éclat à l'extérieur de la pièce. Et plus aucun des rayons fureteurs de la ville ne s'était insinué chez lui. Il dormait en toute sécurité. Et s'éveilla dans l'horreur. On avait arraché son carton de la fenêtre. Il gisait sur la couverture jetée à même le sol poussiéreux, semblable à une mare à demi coagulée. La vitre brisée n'était pas transparente. La poussière et la saleté qui montaient de la rue lui avaient donné une couleur laiteuse. Des stalactites de crottes de pigeons la décoraient tels des glaçons de cartes postales. Une averse récente avait dilué la crasse, empêchant de voir dehors. Mais l'arrière-plan grisâtre et fantomatique qui tient lieu de nuit aux grandes villes était là. Des ombres coulaient de ses maigres possessions, s'insinuaient depuis les étagères de planches posées sur des briques. Dans le coin gauche de la fenêtre, une tache de lumière plus vive tombait des lampadaires agressifs de South Jackson. Des raies de lumière horizontale s'étiraient sur la vitre brisée, annihilant jusqu'au souvenir du vide et de l'obscurité bénie de la véritable nuit. La douce nuit aux cieux étoilés et à l'air purifié par le feuillage des arbres avait été remplacée par la grisaille de la ville. Elle émanait tout autant des caniveaux et des poubelles que des phares des lampadaires. Elle était plus que la vapeur formée par l'haleine des poivrons recroquevillés sur les trottoirs, plus que les exhalaisons des pots d'échappement. Elle n'était pas neutre. Le magicien parvint à garder un souffle égal, mais il tremblait intérieurement. Son cœur ne souhaitait qu'une chose, s'emballer. Ses poumons avaient soif d'oxygène, d'encore plus d'oxygène, et tout de suite. Mort de peur, il les obligea à se calmer et tenta de réfléchir.
Oui, bien, on n'est pas du tout dans le même genre d'univers, on est vraiment dans une fantaisie urbaine plus contemporaine. Megan Lindholm, une autre signature, mais aussi des romans de fantaisie qui devraient pouvoir plaire à une partie de notre public, en tout cas. On avance, on a l'impression que ce bavardage peut continuer très longtemps, mais pourtant, on a la remise des prix tout à l'heure, et bien évidemment, il faut qu'on aborde le dernier cycle, le tout nouveau cycle. Quand j'ai su que Robin Hobb nous proposait une nouvelle série, je me suis dit... ça risque d'être quand même comme d'habitude. J'ai rencontré tellement d'écrivains que j'admirais, que j'adorais, que j'admire toujours pour leur œuvre, en tout cas passée. Et puis le succès, à un moment donné, c'est lourd à porter. Quand on a une série comme L'Assassin Royal, 13 volumes, couverts de prix, de lecteurs, traduits dans le monde entier, elle va nous faire une belle série, mais quand même pas au même niveau. Ou alors elle va nous faire une série qui est finalement assez proche de l'Assassin Royal, parce qu'on sait bien que les écrivains se répètent, même quand ils ont beaucoup de talent, et puis qu'à un moment donné, on continue une carrière, mais que bon, les vrais livres, c'est dans le passé qu'on les a faits. Et j'ai donc attaqué les cités des anciens, avec ce préjugé, tout le monde a des préjugés, la preuve. Et finalement, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc, ça n'avait rien à voir. Même si, bien évidemment, par bribes, on voit que c'est le même monde qui a des renvois à l'univers précédent. Mais les personnages sont différents, le cadre est différent, l'aventure est différente, et des dragons on n'avait pas trop l'habitude quand même d'en voir à tous les coins de page. J'avais prévu de lire un seul volume, parce que le temps me pressait pour le festival, et je vous en veux beaucoup, parce que j'avais vraiment énormément de travail, et j'ai dû parfois avoir des nuits de 2 à 4 heures, et franchement, c'était pas un service à me rendre avant le festival, Rubinum. Et au-delà de la boutade, je suis vraiment très sérieuse. C'est un bonheur. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dit que c'était une bonne série, etc. Mais vraiment, je vois pas de différence de qualité avec l'Assassin Royal. C'est très différent. Les premières pages m'ont un peu désarçonné. J'ai pas retrouvé la première série. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage incroyable. Et vous osez des choses que vous n'avez peut-être pas osées sur certains personnages, en tout cas de façon aussi claire dans les premiers volumes. Alors, bon, j'ai arrêté de bavarder, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que notre lecteur veut bien tout de suite nous faire rentrer dans cette série? Vous avez beaucoup de chance si vous ne l'avez pas encore commencé, parce que vous allez lire les trois premiers dans les semaines qui viennent, et vous serez comme moi. C'est quand la publication du suivant? Qu'est-ce qu'il fait ce traducteur, notre lecteur?
La reine dragon avait une couleur bleue ou argentée selon l'incidence du soleil sur ses écailles. Elle avait au moins trois fois la taille des jeunes en train d'éclore. Elle referma ses ailes et on crut voir un navire ferler ses voiles. Elle les rabattit sur ses flancs, puis les replia pour les plaquer sur elle comme des ailes d'oiseau, si bien que ses plumes se fondirent dans les écailles de sa peau. Elle laissa tomber le daim qui pendait dans sa gueule. « Mangez !» dit-elle aux dragonneaux. Puis sans attendre qu'ils eussent commencé, elle se rendit au bord du fleuve, baissa sa grande tête et but l'eau laiteuse. Enfin, rassasiée, elle releva la tête et entr'ouvrit les ailes. Ses puissantes pattes arrière fléchies la propulsèrent haut dans le ciel et deux battements de ses larges ailes la rattrapèrent avant qu'elle ne retombât au sol. Lourdement, elle s'éleva et s'en alla vers l'amont de nouveau en chasse. Oh non ! La pitié voilait la voix grave de son père. Quel dommage ! La petite dragonne en dessous de Timara continuait d'arracher les lambeaux gluants de son cocon et de les dévorer. Un pan gris se colla sur son museau, et elle s'efforça de l'ôter avec les griffes de ses pattes antérieures courtaudes. La jeune fille trouvait qu'elle ressemblait à un bébé aux joues et aux cheveux maculés de panade. La dragonne était plus petite qu'elle ne s'y attendait, moins développée aussi, mais elle rattraperait sûrement son retard une fois adulte. Timara lança un coup d'œil perplexe à son père, puis elle suivit son regard. Pendant qu'elle s'intéressait au nouveau-né, au pied de son arbre, d'autres dragons avaient éclos. Et l'odeur de sang frais qui émanait du daim mort les attirait. Deux d'entre eux, l'un d'un jaune éteint, l'autre d'un vert boueux, s'étaient approchés de la carcasse d'un pas chancelant et la dévoraient, trop affamés pour se la disputer. Les querelles éclateraient sans doute quand viendrait le moment de s'emparer du dernier morceau de choix. Pour l'instant, les deux créatures accroupies près du cadavre sur lequel elles s'appuyaient de leurs membres antérieurs arrachaient des morceaux de chair et de peau, puis rejetaient la tête en arrière pour avaler tout rond la viande tiède. L'une d'elles fouillait dans le ventre tendre, les entrailles pendaient des mâchoires du dragonneau jaune et dessinaient sur sa gorge des zébrures rouges et marrons. La scène était violente, mais pas davantage que la curée de n'importe quel prédateur.
Voilà, alors des dragons, on en voit beaucoup en fantasy. C'est très à la mode et parfois c'est lassant. Vos dragons à vous, ils sont vraiment très particuliers. Cet extrait-là ne donne pas l'idée de la particularité de ces dragons, parce que c'est une scène qui semble un peu traditionnelle, même si elle est très directe. Mais ce qui m'a frappé, on le disait, un premier café, tant pis pour ceux qui y étaient présents, parce que je pense que c'est important. En fait, les dragons qui sont ici décrits, en tout cas ceux qui vont être les dragons importants de cette aventure, ils naissent avec des handicaps. Inès, moins puissant qu'il ne le devrait. Inès avec la possibilité de ne pas réussir à se nourrir et donc de mourir. Et en fait, c'est pas des dragons triomphants, cette race puissante avec laquelle les hommes avaient passé une alliance, mais c'est une race souffrante et moribonde. En quoi bousculer le thème habituel de ces dragons surpuissants qu'on voit dans la plupart des romans de fantasy, ça vous donnait une opportunité de raconter différemment l'histoire, Robinum?
I think again that I like the idea of a biologically based magic, and given the what the dragon's forebears had been through, it was only logical that they would face some difficulties. I think that sometimes when we write, if you start with a powerful character that has every advantage, there is very little place for the story to go. I think if you have characters that must struggle, that must grow and change, then there are many possible paths for the story to follow. So in choosing these characters, I think I gave myself an opportunity to write a story that would look at what would happen to a character who is born without the power that they expected to have, and how that character adjusts to it.
Je pense que j'aime l'idée d'avoir une magie qui a des fondements biologiques. Et donc, les difficultés que rencontrent ces dragons n'étaient que logiques quand on voyait en quoi les prédécesseurs, en tout cas leur étape précédente de leur cycle de vie, ce qu'ils avaient subi, en fait, les épreuves qu'ils avaient vécues. Je pense que quand on écrit, si vous commencez avec un personnage très puissant qui a tous les avantages dans tous les domaines, vous n'avez pas grande marge de manœuvre pour écrire votre histoire. Je pense en revanche que si vous avez des personnages qui doivent lutter, qui doivent grandir, qui doivent changer pour avoir le pouvoir dont ils ont besoin, eh bien cette histoire a bien des chemins qu'elle peut prendre pour se développer. Donc en choisissant des personnages de cette nature, ça me donnait beaucoup d'occasions pour faire grandir cette histoire. Et j'avais envie d'examiner ce qu'il se passait en prenant des personnages qui étaient nés en n'ayant pas le pouvoir qu'ils s'attendaient à avoir, et d'étudier comment est-ce qu'ils s'ajusteraient à ces circonstances.
Il n'y a pas que des dragons dans les cités des anciens, il y a aussi les anciens, mais ça on commence à les voir apparaître seulement en troisième volume. On a surtout des personnages, aussi bien d'hommes que de femmes, de jeunes femmes et de jeunes hommes, particulièrement étonnant. Je pense à Alice, cette jeune femme passionnée par les dragons, qui fait un mariage d'affaires, en quelque sorte, parce que sa famille va la marier, et que finalement un homme lui offre un accord, en quelque sorte. Vous me faites des enfants, et à part ça, je vous laisse vous occuper de dragons, de faire ce que vous voulez, et je vous verrai pas souvent. Elle, évidemment, un peu romantique et naïve, pensera l'aimer. Et puis, je pense aussi à Timara, cette jeune fille aux pieds, aux mains griffues, qu'on aurait dû tuer à la naissance, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude, on les expose et on les tue quand c'est des enfants mutants. Et donc, c'est comme les dragons, ces personnages ont à la fois des forces en eux, mais aussi des faiblesses. Et ce sont des personnages qui, soit dans leur milieu, soit dans leur famille, soit dans la société, ont un problème, une difficulté, et vont devoir s'y confronter. Finalement, ils sont comme vos dragonneaux, ça commence mal.
Yes, that is true, and again, it is the in some ways for the same reason that a character who begins with a disadvantage is it's an interesting place to start the story. It's also a way to look at what is strength and what is weakness, and to compare the things that a society might want those characters to be as opposed to what the characters are. How long can somebody fill a role that does not really fit them? And what are the consequences of trying to do that? What is the expense to yourself?
Oui, c'est tout à fait vrai. comme je disais, c'est un petit peu les mêmes raisons. J'ai envie de démarrer avec des personnages qui avaient des désavantages parce que je pense que c'est une étape intéressante pour démarrer une histoire. Je pense que c'était également une façon pour moi de traiter dans le livre qu'est-ce qui constitue exactement une force et qu'est-ce qui constitue exactement une faiblesse. Et également de comparer les choses qu'une société espère et demande de nous vis-à-vis de ce que nous sommes véritablement et ce que nous voulons être. Et combien de temps nous pouvons remplir ce rôle que cette société nous impose s'il ne nous correspond pas vraiment? Quelles sont les conséquences que cela entraîne pour nous et à quel prix personnel, à quel coût l'on maintient ce rôle et cette façade?
C'est une réflexion intéressante. Un petit extrait à nouveau, Sylvain Demierre.
Le secret qu'exigeait le projet avait triplé la quantité de travail nécessaire. Leftrin n'avait pas osé déplacer le bloc de bois sorcier. Le remorquer en aval du fleuve pour trouver un meilleur site pour le débiter était impossible, car un bateau de passage eût instantanément identifié sa cargaison. Il fallait donc effectuer sur place, dans la boue et les broussailles, la découpe du bois en longueur et en sections utilisables. Ce soir, ils avaient fini. Le gros du bois sorcier avait disparu et les chutes avaient été mises de côté dans les cales du Mataf comme bois d'arrimage. Sur le pont, l'équipage faisait la fête. Leftrin, lui, à la lumière de la conspiration qu'il avait ourdie, jugeait essentiel que tous ces hommes renouvellent leur engagement à bord du Mataf et tous avaient déjà signé les documents. Seul restait Swarge. Le lendemain, Mataf retournerait sur le fleuve et regagnerait Tréhog pour débarquer les discrets ouvriers triés sur le volet, qui les avait si bien servis. Ensuite, la gabarre reprendrait son circuit habituel. Mais pour le moment, tous fêtaient l'achèvement d'une énorme entreprise. Tout était fini et Leftrin n'éprouvait aucun regret.
Un capitaine, on retrouve les marins, qui va jouer un rôle important aussi dans l'histoire, dont on va découvrir que c'est un homme dans les gris. À la fois, c'est un quelqu'un qui s'arrange avec la loi et peut-être avec un peu sa conscience, puisqu'il va faire ce qui est interdit, se procurer un bois sorcier qui va lui permettre d'avoir un navire plus puissant et plus efficace, avec une sorte de lien télépathique. Et puis, un homme dont on découvrira qu'il est aussi capable d'amour et de générosité. Vous aimez bien, Robin Hobb, les personnages ambigus?
I think that those are the characters that we all love, that we all remember, whether it's Long John Silver from Treasure Island, the character who has two sides, and as a reader, you get to see both of those sides sometimes from that character's own point of view. I think These are the characters that fascinate all of us. And whether it Long John Silver or Han Solo, is he a good man? Is he a bad man? Did he shoot first? but they are the characters that remain with us through our lives and we think about often long after the story is told.
Je pense que ce sont ces personnages-là que nous aimons tous et dont nous nous rappelons tous après la lecture. Par exemple, des personnages comme Long John Silver dans L'île au trésor, des personnages qui ont deux visages, deux côtés. Et en tant que lecteur, nous avons le plaisir et la chance de voir les deux visages. Parfois même, nous avons même le propre point de vue du personnage sur ses actions. Je pense que ce sont ceux qui nous fascinent tous, Long John Silver, ou par exemple des personnages comme Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Est-ce que ce sont des personnages qui sont mauvais? Qu'ont-ils fait? Est-ce que Han Solo a vraiment tiré le premier ou pas? Je pense que ce sont des personnages qui restent avec nous à travers notre existence, même après que l'histoire a été racontée.
On approche de la fin de ce café littéraire, avec regret, je n'étais pas pressé de partir, franchement. Et je pense que vous non plus. Mais bon, on va avoir une remise des prix, c'est quand même important. Et évidemment, je suis obligé de m'y rendre. C'est quand même un plaisir de fêter nos auteurs. Et puis Robin Hobb, marraine du festival, évidemment, on a besoin de sa présence, c'est important. Je voulais quand même poser une dernière question qui était peut-être sur les personnages, un des personnages féminins aussi. Comment je pourrais vous dire ça ? La difficulté parfois de certains personnages à prendre position. Je pense à Alice qui hésite beaucoup dans les trois premiers entre ses désirs, ce qu'elle voudrait vraiment et ses engagements en quelque sorte, entre vivre ou tenir sa parole. En quelques mots, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que ça aussi pour vous c'est typique dans un roman de personnages intéressants ?
I think a character that has a conflict that is at the very basis of their life is one that we are all going to watch and to wonder, where the choices are there and it's not obvious to us what is the best choice any more than it's obvious to her. We can see many ways that the story can go, and watching her struggle to decide what choice to make, which role to fulfill in her life, is something that I think we can all identify with. We are all placed in situations where there is an expectation, perhaps by a family, perhaps by the job you are in, perhaps by society has an expectation of you. And it is not something that you particularly wish to give your life to. And so, because we have all faced those sorts of decisions, I think it's very interesting to us when we see a character who is also on the horns of a dilemma.
Je pense que c'est intéressant d'avoir un personnage dont la vie repose entièrement sur un conflit. C'est un personnage, nous allons tous l'observer et nous demander ce qu'il ou elle va faire et quel choix il ou elle va prendre. Et c'est spécialement intéressant quand ces choix ne sont pas plus évidents pour nous qu'ils le sont pour le personnage. Et à partir de là, l'histoire peut prendre bien des chemins. Nous le regardons lutter et décider que doit-il ou elle faire, quel rôle il ou elle doit-il remplir. Je pense que ce sont des personnages avec lesquels nous pouvons tous nous identifier, parce que nous sommes tous retrouvés dans des situations où on avait des attentes envers nous. Des attentes poussées, des attentes que notre famille, notre travail, parfois même la société avait de nous, et qui avaient des attentes particulières. Et ce sont parfois des attentes auxquelles nous n'avons pas forcément entièrement, vraiment envie de consacrer notre vie. Nous avons tous affronté des décisions et ce genre de situations, et je pense que c'est intéressant pour nous aussi, puisque nous avons tous vécu ces situations, de voir des personnages confrontés à des dilemmes aussi difficiles que cela.
On a dépassé déjà, mais tant pis, je vais poser une dernière question, parce que ça me pose quand même question, puis on n'a pas envie de s'en aller. Alors je ne peux pas trop révéler, parce qu'il faut quand même que les lecteurs découvrent. Le personnage d'Alice est malheureux en ménage, ça on peut le dire, on le voit très vite. Très vite, enfin assez vite, peut-être pas très vite. Des personnages nous donnent des éléments d'information qui nous laissent comprendre ce qui se passe et les raisons qu'un homme qui finalement n'avait pas l'air si mauvais se comporte si mal. Finalement, avant même que les personnages nous en informent, je l'avais en tout cas personnellement comme lectrice deviné. Et on se rend compte que Alice, elle, au fur et à mesure que le roman avance, le premier, le deuxième, elle ne voit pas ce qui commence à lui crever les yeux. Mais quelle gourde, on se dit, mais comment elle ne peut pas comprendre ce qui se passe, ce qui arrive et ce qui est devant ses yeux. Et finalement, le lecteur en sait vite, parfois même très vite, beaucoup plus que l'un des personnages principaux. Et ça provoque une sorte de tension, parce que quelque part aussi, on est peiné pour elle. Et finalement, on est peiné aussi pour son mari, on est peiné pour les autres personnages. Et sans révéler tous les secrets qui sont dans ces livres, c'était important pour vous de construire ce personnage important qui en sait moins que le lecteur ?
I think that it, I think it is based on people I know who actually have been in that situation. I have had readers say to me, "That's not believable," and all I can answer is, "Perhaps not, but it's true." So, to see how a character who is ignorant of one truth, her life is distorted, and the characters who must keep the secret, how their lives are distorted, the unhappiness it brings for all of them, is I think something that is not interesting, but is useful to look at when we think about the secrets that we all carry and what they do to ourselves and to those around us.
Et en fait, je pense que ce personnage est en partie fondé sur des gens que je connais et qui se sont trouvés dans cette situation. J'ai des lecteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, justement, ce sort n'est pas crédible. Et j'ai répondu, ah, c'est peut-être pas crédible, mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est intéressant de voir, de suivre un personnage qui ignore peut-être volontairement une vérité sur sa vie et qui distord sa vie, et de voir comment justement ce secret qui va tordre et biaiser sa vie, de voir comment est-ce que l'on conserve et comment est-ce que l'on vit avec ces secrets qui peuvent éventuellement orienter et biaiser une vie. De regarder le malheur qui les frappe, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas forcément peut-être intéressant, mais quelque chose qui pouvait être utile à examiner. De voir comment les secrets que nous portons tous en nous, comment ces secrets peuvent éventuellement orienter notre vie, voir ce qu'ils nous infligent et ce qu'ils peuvent éventuellement infliger aux gens qui nous entourent.
C'est une bien jolie fin, et c'est toujours la compréhension et l'ouverture qu'on trouve dans les romans de Robin Hobb, sa façon d'être est la sienne, mais elle comprend si merveilleusement la façon d'être des autres, et c'est peut-être aussi ça que nous apporte la littérature. Alors, comme j'ai dépassé l'horaire, on est entre nous, ça ne se saura pas, vous êtes tous témoins. Moi, je voulais arrêter à 19h pile parce qu'on a des obligations, il y a la remise des prix. Si je suis en retard, c'est parce que Robin Hobb, la marraine du festival, ne voulait pas s'en aller, elle avait encore des choses à dire. Vous êtes tous témoins, merci. Merci Robina, beaucoup, merci. Vous pouvez retrouver notre auteur quelques minutes très très vite pour quelques signatures. Les pots démarrent toujours un peu en retard, je m'y rends, Lionel nous préviendra. Quelques minutes de signature. Et ensuite c'est le 2. Vous n'oubliez pas, c'est sur le programme. La remise des prix, le petit verre, il est annoncé sur le programme. C'est-à-dire que vous, lecteurs, vous pouvez y participer, il est ouvert à tous.